Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Jérôme Notin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr, c'est le grand mois. Il y a eu les. Une question sur. Parce qu'on alors, on va parler du mois de la cyber en octobre. Question, les JO, ça s'est plutôt bien passé en cybersécurité. On en parle beaucoup ici, mais.
On a eu plein de médailles, à ma connaissance. Et puis, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, vous connaissez bien, avait fait un énorme travail de prévention. Donc, on a le directeur général de l'ANSSI a communiqué en disant on a beaucoup parlé de cybersécurité en amont. On peut en parler pendant les Jeux et on n'en a pas parlé parce
c'est vrai que c'était le cas.
Il y a eu très peu de problèmes. Le nombre d'incidents de mémoire traités par l'ANSSI a été de 141. Des vrais incidents.
Oui, c'est ça, des vrais incidents.
Sans impact, en fait, sur les Jeux.
Sans impact, à la fois pour les côtés télé, enfin côté téléspectateurs, que spectateurs, que officiels, billetterie ou les athlètes eux-mêmes qui peuvent aussi être victimes de cyberharcèlement, enfin de tout ce genre de sujets.
Il y a alors, les gens qui se perdent, peut-être, voilà. Les gens de l'administration.
Alors, on a ce mois de la cyber, alors il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Il y a une action citoyenne qui va s'appeler Cyber Engagé, il y a une opération pour les TPE-PME Impact Cyber, il y a des événements à l'Assemblée nationale, je crois, le 2 octobre, il y a un événement qui va être aussi emmené. Le but de ce mois, c'est de dire, allez, pendant un mois, vraiment, on vous met le forcing, on vous montre tout ce qu'il faut, on vous sensibilise encore davantage.
Sans mettre le forcing, parce que c'est un peu négatif, mais oui, l'idée, c'est ça, c'est toute structure, qu'elle soit publique, privée, qu'elle soit dans les territoires, surtout a une capacité de parler de cybersécurité. On a réuni un collectif de 1200 entités en préparation de ce mois européen cyber. On a des petites collectivités, on a des ministères, on a du public, du privé.
Donc c'est animé des séminaires, des formations,
c'est ça.
Des choses comme ça,
c'est
un peu partout.
Vraiment parler de cybersécurité. On a aussi sur notre site cybermois.gouv.fr un agenda et on a par exemple à la Martinique dans un centre commercial on va parler de cybersécurité. On a dans un foyer rural en Charente-Maritime on va parler de cybersécurité et ça c'est assez extraordinaire parce que ça touche le quotidien. J'entendais votre collègue tout à l'heure qui parlait de paiement par QR code en 2026. Tout de suite je me suis dit les cybercriminels ce sont des gens très créatifs, on peut imaginer qu'ils nous donnent un peu de travail. Alors nous on est sur les aspects prévention, on n'est pas sur l'identification des auteurs d'arnaques, mais voilà, pour revenir à notre sujet, la cybersécurité c'est quelque chose parce qu'on est tous utilisateurs d'un outil numérique qui doit nous toucher, on doit faire attention, on ne doit pas en faire quelque chose de...
Moi je trouve que c'est intéressant, c'est que réussir à instaurer le doute chez chacun, c'est de se dire, je reçois un SMS, je dis tiens c'est bizarre ce SMS, mon colis m'attend, et ça y est, on commence à s'y habituer. Mais c'est ça, je trouve qui est, je trouve que quand on voit des gens qui sont pas du tout dans l'univers de la tech, qui sont pas du tout, enfin qui sont juste des utilisateurs standards du numérique et qui commencent à se poser la question, en disant tiens, la Poste m'écrit pour me dire, on l'a tous dans notre entourage, un colis m'attend, alors je sais pas trop quel colis. Et là, je trouve que déjà là c'est une première victoire quand même.
C'est une première victoire parce que c'est une première étape pour bien réagir par rapport à un risque, il faut avoir connaissance de ce risque. On a encore beaucoup de gens, même en 2024, qui considèrent que recevoir un email ou un SMS qui se fait passer pour une structure publique, par exemple l'Entaille,
pour les amendes.
Parce qu'il y a le logo de l'Entaille, c'est quelque chose de vrai. Nous, on est dans ce monde-là depuis longtemps, donc on voit au quotidien les victimes, et je peux vous garantir qu'il y a une grande partie de la population qui n'a pas conscience que c'est hyper simple d'usurper de mettre un email, par exemple, aux couleurs de l'État français.
D'ailleurs, avec cybermalveillance.gouv.fr, vous avez fait une très belle étude avec Ipsos, Ipsos Digital. On voit que, alors globalement, 63% des Français se considèrent bien sensibilisés. C'est plutôt pas mal. 8 sur 10 savent ce qu'est un spam. 6 sur 10 sont familiers avec savent ce que c'est hameçonnage ou phishing ou smishing, voilà, par le biais des SMS. Mais on continue quand même à se faire avoir.
Alors, vous avez donné beaucoup de chiffres. J'en donne juste un pour compléter. 63% pensent qu'ils sont bien protégés. 61% se font encore avoir.
Ah, c'est ça.
Donc, il y a un vrai enjeu. Voilà, j'identifie le risque. Après, je viens chez nous ou à travers des événements du mois européen cyber pour justement savoir comment me protéger en amont d'être victime.
En plus, je trouve intéressant que maintenant, la démarche, c'est de dire attention de ne pas vous faire avoir, alors, usurpation d'identité, derrière, perte d'argent. Mais aussi, je trouve que c'est intéressant, dans cette étude, vous dites l'impact des conséquences des cybermenaces, l'impact psychologique auquel on parle pas souvent. Selon son lien avec le numérique, on peut être, alors il y a le cyberharcèlement, mais on peut être aussi complètement, j'irais presque dire, pas un viol, mais enfin, il y a quelque chose quand même, comme un cambriolage, quoi. On est perturbé. perturbé.
Depuis un peu plus de 2 ans, aujourd'hui, en France, on a beaucoup d'arnaques aux faux conseillers bancaires. Mm-hmm. Ce sont des gens qui vous appellent parce que vous avez cliqué sur un lien d'hameçonnage et que vous avez saisi des données personnelles, dont votre numéro de carte bancaire. Donc, ils vont vous appeler, se faire passer pour votre banque et vous faire valider des opérations en donnant les codes. Beaucoup des victimes, effectivement, ont considéré que c'était une intrusion dans leur vie personnelle. Elles s'en veulent parce qu'elles ont parfois entendu parler de cette arnaque, mais dans l'urgence, ils savent très bien faire. Mm-hmm. En ingénierie sociale, ils sont très bons. Et voilà, ils s'en veulent d'être victimes. On a, donc ça, c'est pour les particuliers. Et puis, on a un cas aussi qui est sur des aspects psychologiques dans les entreprises. Quand une entreprise est bloquée, par exemple, pour du rançongiciel, vous savez, mm-hmm. traitez beaucoup de ces sujets-là. Souvent, la grande majorité des collaborateurs qui sont pas directement impliqués vont essayer d'identifier qui est à l'origine de ça. Et ça, c'est dangereux parce que on va essayer
On sait tout savoir, on va cliquer trop loin, trop vite.
Tout le monde peut faire une erreur.
Pendant un numéro de téléphone. Chose que j'ai trouvé intéressante aussi dans cette étude Ipsos cybermalveillance, c'est 25% des 25-34 ans disent avoir déposé plainte. Ça aussi, c'est un peu. C'est pas encore suffisant, c'est 11% des 55 ans qui ont lancé une procédure. Ça y est, on y arrive. Et ça veut dire que de l'autre côté aussi, côté autorité, on est prêt à accueillir aussi ce genre de plainte.
Oui, et il est nécessaire de déposer plainte parce que c'est citoyen. C'est-à-dire que si personne ne dépose plainte, d'une part, nos autorités oui. politiques n'auront pas conscience de l'importance du phénomène. Et puis d'autre part, les services d'enquête n'auront pas d'éléments techniques mm-hmm. qui vont permettre d'identifier les auteurs. Alors vous n'allez peut-être pas être remboursé. Par contre, dans le collectif que nous composons, si jamais on participe au fait qu'on puisse identifier des auteurs, on a vraiment rendu service
à la société. Et on le voit d'ailleurs, on l'avait déjà signalé ici, on voit quand même de plus en plus d'arrestations. Alors, c'est un peu plus médiatisé, certainement. Mais quand même, on trouve que là où l'époque, le jour où on attrapait un pirate, ça faisait des gros titres. Là, ça y est, on voit que la collaboration entre les services de police, entre les États et tout ça, ça permet vraiment cette avancée aussi dans ce domaine.
Et on voit des arrestations, en tout cas des identifications de mise en cause sur tous les domaines de la cybermalveillance. On parle beaucoup des rançongiciels, des groupes qui sont parfois basés à l'étranger. Vos collègues journalistes se sont fait écho cette semaine, ce week-end, je crois, d'une interpellation d'un groupe, enfin de 5 mm-hmm. interpellations pour de l'arnaque au compte professionnel formation. C'est 31 millions d'euros qu'ils ont volés à la collectivité puisque ce sont nos impôts qui ont remboursé derrière. Donc 31 millions d'euros pour 5 personnes, on peut se payer de belles vacances. Et voilà, c'est vraiment des groupes qui sont très organisés, des vrais mafias. On peut considérer que des petites arnaques comme ça, ça ne va pas faire grand-chose. Sauf qu'au final, ça peut faire beaucoup, mm-hmm. beaucoup d'argent
et au détriment de la collectivité. Et on l'a dit, financier, mais aussi psychologique. Merci Jérôme Notin d'être venu nous parler de tout ça, directeur général de cybermalveillance. .gouv.fr. Allez-y, hein, c'est le mois de la cyber, c'est l'occasion de découvrir tout ça. Il y aura, je rappelle, une action citoyenne cyber engagée, une action sur les près des TPE PME Impact Cyber, et puis cet événement, c'est le lancement officiel, c'est le 2 octobre, c'est ça, l'Assemblée
nationale. C'est le premier, parce que pour des raisons un peu politiques, on n'a pas pu avoir la salle, donc on fait l'événement le 2000. Le lancement reste le premier.
Mais c'est lancé, en tout cas, continuez à vous sensibiliser autour de ces sujets. Merci d'avoir été avec nous.